Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Comme la Mère de Dieu et comme Saint Jean, Marie-Madeleine ne finira pas ses jours par le martyre, mais elle vivra elle aussi dans la tranquille bénédiction de son amour. Elle vivra au pied de Jésus-Christ disparu, comme elle y vivait à Béthanie et au Calvaire, amante, accoutumée aux délices de la contemplation, et n'ayant besoin que de regarder dans son âme celui qu'elle regardait autrefois, sous le voile transparent d'une chair mortelle. Mais où cachera-t-elle les reliques bénies de son existence? C'est la France qui reçut des mains de Dieu cette part du testament de son Fils. La persécution du christianisme avait commencé en Jésus-Christ. Elle ne tarda pas à s'étendre autour de son tombeau. Saint Étienne en fut, après son maître, le second martyr. Le christianisme recevait son baptême aux mêmes eaux que son fondateur, et ses premiers disciples, dispersés par la croix où ils étaient nés, emportaient au loin la parole qui devait illuminer le monde et le sang qui devait le purifier. Cette émigration allait faire l'Église. Une barque entre les autres quitta ces beaux rivages qui s'étendent du Carmel aux bouches du Nil. Elle portait dans ses flancs la famille de Béthanie et quelques disciples qui s'étaient joints. Ils abordèrent à Marseille, ville qui était une des portes de l'Europe. Ils venaient là en inconnus. La puissance du christianisme se dérobait dans leur humilité. Des lieux solitaires, des cryptes souterraines virent alors célébrer dans l'ombre les augustes mystères de la rédemption. Un petit troupeau se forma de ce sang transporté de la croix par ceux qui l'avaient vu couler. Des matelots, peut-être, des artisans, de pauvres femmes, composaient cette église naissant autour du ressuscité de Béthanie. Le temps mûrit cette semence et la crut. Marseille s'émut enfin au bruit de la nouvelle doctrine, et le sang de Lazare lui donna son premier saint, son premier martyr. Quelle fut la part de Marie-Madeleine dans l'apostolat de son frère? Jésus-Christ attendait son ancienne et fidèle amie pour la faire jouir de cette part qu'elle avait préférée et que nul ne devait lui ravir, selon qu'il l'avait solennellement promis. Cette part, c'était la contemplation dans la solitude. Dieu, dans la création, avait pensé à Marie-Madeleine et lui avait fait en un point de la terre un asile exprès, la Sainte-Baume. Là donc, séparée des hommes qui avaient crucifié son Sauveur et le Sauveur du monde, elle n'avait plus qu'une pensée, celle de revoir l'ami divin qu'elle avait perdu. Car l'éloignement ni la mort ne rompent l'amour véritable. Il creuse l'âme d'autant plus qu'il est privé d'épanchement au dehors. Marie-Madeleine vivait dans le souvenir continuel de son bien-aimé. Jamais son âme ne le quittait. La relation avec lui, jaillie des profondeurs de son cœur aimant, ne cessait jamais. Car le véritable amant aime partout son bien-aimé et ne le quitte jamais. À travers tout, elle voulait continuer de le regarder, de l'écouter, de lui parler, de communier à tout ce qu'il était. Et c'est dans le silence de sa petite grotte qu'elle le retrouvait le mieux. Non seulement elle voulait méditer la vie de Jésus, mais elle voulait surtout la reproduire en elle. En chaque action de la journée, elle allait à la rencontre de Jésus. Le temps n'ôtait pas à Marie-Madeleine le sentiment douloureux de la séparation d'avec notre Seigneur. Au contraire, il creusait en elle une souffrance et une solitude toujours grandissantes. Cette absence d'avec lui, que devait-elle être pour celle qui avait tenu et embrassé ses pieds divins, et qu'il avait aimé par-dessus toute amitié de la nature et toute onction de la grâce. Elle se rappelait l'attrait de toutes ses actions, la grâce qui émanait de lui, l'expression merveilleuse de son visage, le son de sa voix et l'efficacité de ses paroles célestes. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles et même chacun de ses silences avait été pour elle comme une nouvelle source d'amour en son âme. Mais l'absence de Jésus venait purifier tout ce que son amour avait pu avoir de trop possessif et d'égoïste. Elle purifia son désir de la jouissance de Dieu. Tout profond et tout ardent qu'était son amour pour Jésus, il n'était pas entièrement parfait, il s'y mêlait encore quelque alliage terrestre, il était nécessaire à sa complète sanctification que sa présence sensible lui fût enlevée et de passer par cette douloureuse épreuve de l'absence. Elle vivait désormais dans le désintéressement absolu du véritable amour et comprenait que le sommet de l'amour ne consiste pas à jouir de la présence de son bien-aimé, mais à le contenter en tout, en rendant sa volonté toujours plus conforme à la sienne. Et au sein de cette douloureuse absence, elle apprenait une nouvelle forme de présence. Elle découvrait que ce désir irrépressible d'être avec Jésus n'était pas irréalisable. Elle expérimentait la présence dans l'absence. Et cette présence, qu'était-elle? Elle ne se réduisait pas à une simple pensée affectueuse tournée le plus souvent possible vers son bien-aimé. L'essence de cette nouvelle relation avec Jésus consistait à unir et conformer à chaque instant sa volonté à la sienne. Il n'y avait plus entre eux qu'une seule et même volonté, manifestée non pas par des paroles ou des désirs seulement, mais par des œuvres. Son âme voyait-elle que quelque chose plaisait mieux à Jésus, son époux? Entraînée aussitôt par son amour pour lui et par son désir de lui plaire, elle laissait agir sa foi, sans avoir aucun égard pour son profit ou son repos, convaincue que dans cet oubli de soi se trouvait tout son avantage. Son amour et sa vie étaient totalement unifiés. Tout ce que faisait Marie-Madeleine, c'était par amour pour Jésus, pour fondre sa volonté en la sienne. Plus aucune parcelle de son existence ne lui appartenait en propre, elle avait tout remis entre ses divines mains, dans l'abandon le plus absolu, et elle trouvait là tout son bonheur. Sa prière montait toute pure vers le ciel. Jamais plus, ô Jésus, jamais plus de dissemblance volontaire d'avec vous, de si peu ou d'aussi loin que ce soit. Hélas, ma chère vie et mon cher amour, quel plaisir aurais-je jamais plus sur la terre, sinon en vous voyant et en vous aimant totalement. Ah, si les hommes vous connaissaient et vous entendaient, combien vite et facilement ils se quitteraient eux-mêmes pour n'entendre que vous, ne vouloir et ne désirer que vous, n'aimer que vous. Pourquoi vous cachez-vous en votre majesté, et aussi en mon cœur et en mon âme? Que mon bannissement loin de vous se prolonge cruellement. Qui me donnera d'être délivré de mon corps mortel pour mettre fin à mes langueurs en la jouissance de mon amour infini que vous êtes à jamais? Mais qu'importe ce que je suis ou ce qui peut m'arriver désormais, pourvu que je sois faite amour et devienne amour à force d'aimer. Puisque vous avez bien voulu m'élever du limon de mes péchés à une dignité si haute, faisant tout à partir de rien, me donnant tout, me mettant en possession de tout, m'unissant et m'attachant à vous du lien et du nœud indissoluble de vous-même, c'est-à-dire de votre amour, en qui vous m'avez entièrement changé et transformé. Ah, comment ne vous serais-je fidèle en vous voyant Dieu et époux d'amour? C'est cela qui me ravit éperdument. Car quelle âme ne serait ravie à jamais en votre amour quand elle a été amoureusement reçue au plus secret, au plus profond et au plus étroit de vos délicieux embrassements? Je suis résolue à vous laisser faire tout ce que vous voulez de moi, puisqu'il n'y eut jamais un amour qui ne fût humble, méprisé et vertueux. Faites que mon amour paraisse au dehors en produisant toutes sortes de vertus actives pour votre satisfaction. Certes, Madeleine continuait à désirer rencontrer son bien-aimé le plus souvent possible dans le face-à-face du colloque intime, et sa pensée occupait tout le champ de sa mémoire et de son cœur. Mais ce qui lui semblait maintenant le plus important, c'était de vivre toujours par amour pour lui, de le contenter en tout. Elle offrait chacune de ses actions au Père en union avec celle de Jésus. Elle savait bien que l'amour ne consiste pas à répandre des larmes, ni à goûter les douceurs et les tendresses que l'on désire ordinairement pour y trouver de la consolation. mais qu'il consiste à servir Dieu dans la justice et dans l'humilité. Car sans cela, nous semblerions recevoir toujours et ne jamais rien donner. Il régnait dans la grotte de la Sainte-Baume un silence profond. En effet, le silence était devenu une des caractéristiques de l'âme de Marie-Madeleine. La Sainte Vierge lui avait appris à méditer et à repasser dans son cœur tous les gestes et les paroles de notre Seigneur. Et comment eût-elle pu n'être pas silencieuse? Son cœur était trop plein de tout ce qu'elle avait reçu dans la compagnie de Jésus. Son âme était désormais réduite au silence. Les charmes de Jésus avaient été pour elle une seconde naissance, une nouvelle vie, un ciel anticipé. Marie-Madeleine avait accompagné Jésus sur les chemins, l'avait écouté longuement, elle l'avait souvent servi avec sa sœur Marthe dans la petite maison de Béthanie, elle l'avait amoureusement contemplé lorsqu'elle demeurait à ses pieds, plongeant ses yeux dans les siens. Elle avait ainsi appris à le comprendre. Il lui avait dévoilé les secrets de son cœur divin. Toutes les similitudes avec Dieu étaient passées dans son âme. Et nous savons combien Dieu est silencieux. Entre le Créateur et sa créature, dans les relations telles qu'elles existaient entre Jésus et Marie-Madeleine, le silence, mieux que les paroles, était un langage. Qu'auraient pu faire les paroles? Qu'aurait-elle pu dire? Elle n'aurait pu porter le poids de ses pensées. Parler aurait été un effort, une descente de la montagne de silence où elle avait fixé désormais sa demeure, trop haute pour qu'aucune voix et même qu'aucun écho de la terre pût retentir jusqu'à elle. Marie-Madeleine était profondément heureuse dans sa solitude. Elle avait assez vécu au milieu du tumulte des hommes pour en connaître les dangers. Les vanités avaient si souvent corrompu et captivé son cœur, et les consolations du dehors l'avaient privée de celles du ciel. Combien il lui semblait doux de vivre désormais en secret pour Dieu, seul avec lui seul. Jésus vivait si profondément en l'âme de Marie-Madeleine qu'il y réalisait une union continuelle. Mais à certaines heures, le très doux amour de Jésus entrait dans son âme avec une extrême douceur, il la remplissait de plaisir et de joie. Elle se sentait alors comme portée entre ses bras divins, collée à son sacré côté et à ce sein divin. Son âme recevait la communication des vérités célestes. Cette lumière lui révélait davantage encore, s'il est possible, le néant du monde qu'elle avait foulé aux pieds. Sans voir son maître bien-aimé, elle comprenait qu'il était avec elle, qu'il l'instruisait dans le secret, et elle se trouvait si transformée, elle sentait en elle des effets si puissants et tant de force pour pratiquer la vertu, qu'elle ne se reconnaissait plus et ne voulait rien faire d'autre que de le bénir et le louer continuellement. Sa prière ne cessait plus. Elle ne savait plus que jouir, nourrie qu'elle était par ce lait divin qui la nourrissait et la fortifiait, pour la mettre en état de recevoir de plus grandes faveurs et l'en rendre chaque jour plus digne. Elle comprenait qu'il n'y avait pas la moindre proportion entre ces caresses si douces de notre Seigneur, cette union si étroite, cet amour si ineffablement témoigné et goûté, et les choses de ce monde. Son âme était en fête. Elle éprouvait au plus intime d'elle-même une telle jubilation venant de Dieu qu'elle lui faisait entonner un chant toujours nouveau, débordant de joie et d'amour. Elle faisait sienne ces paroles des psaumes. « Je t'exalterai, Seigneur, parce que tu m'as relevé. Tu as changé mes pleurs en joie. Tu as déchiré le sac qui me tenait captive et tu m'as environnée d'allégresse, afin que ma gloire seule te chante, et que je ne sente plus l'aiguillon de la contrition. Seigneur mon Dieu, éternellement je t'adresserai mes louanges. » Son âme n'était plus qu'allégresse et louange de Dieu, car outre la connaissance de tant de faveurs dont il l'avait comblée, elle expérimentait toujours plus profondément en lui une inexprimable tendresse. Son bien-aimé l'enrichissait de tant de grâce qu'il semblait en vérité que Dieu n'avait ici-bas nulle autre âme à caresser et que ce fut sa seule occupation, l'unique objet de son attention. Elle chantait sans cesse en son âme comme l'épouse des cantiques. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. La mort de son âme à toutes les choses de la terre s'était transformée en vie du Christ, de sorte qu'elle pouvait dire en toute vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Elle était tellement absorbée dans la vie divine, tellement étrangère aux vanités du monde ou à ses appétits désordonnés, qu'elle était toute transformée en la beauté du roi céleste, s'appropriant cette parole du cantique des cantiques. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Sa noirceur naturelle était à présent toute changée en beauté, et elle renvoyait à son bien-aimé la lumière et l'amour dont il l'avait lui-même comblée et embrasée. Car le vrai bonheur de celui qui aime est de rendre à son bien-aimé tout ce qu'il est, tout ce qu'il vaut, tout ce qu'il a, tout ce qu'il reçoit, et plus tout cela a de prix, plus il goûte de joie à lui en faire hommage. Telle était la joie de Marie-Madeleine. Elle pouvait se servir des splendeurs et de l'amour reçu de Jésus pour resplendir en sa présence et lui rendre amour pour amour. Son oraison laissait son âme remplie d'une extrême tendresse d'amour. Elle aurait voulu se fondre tout entière en larmes, non plus de douleur mais de joie. Par moments, elle s'en trouvait baignée, sans même les avoir senties couler, ni savoir quand ou comment elle les avait répandues. Ses larmes pleines de douceur remplissaient son âme de courage, et si à l'instant même on l'avait mise en pièces pour Jésus, elle en aurait éprouvé un plaisir extrême. C'est à cette heure que naissaient en elle les promesses et les résolutions héroïques, les brûlants désirs de pénitence, une horreur du monde encore plus grande, avec la vue claire de toutes ses vanités. Elle sentait qu'elle retirait de sa prière des biens encore plus abondants et élevés que par le passé. Son humilité augmentait, car elle voyait bien qu'elle n'était pour rien dans toutes ses faveurs. Son indignité lui apparaissait au contraire dans toute son étendue, et elle voyait à nu la profondeur de sa misère. Il lui semblait qu'elle n'avait désormais plus rien à faire que d'aimer. Tout se réduisait pour elle au seul exercice de l'amour. Sa vie passée, et l'immense miséricorde de Dieu lui apparaissait dans toute sa vérité. Elle voyait que par elle-même elle avait mérité l'enfer, et que notre Seigneur la châtiait avec de la gloire. Oui, elle se sentait comblée de grâce, et la grâce est déjà le commencement de la vie de la gloire en nous.